RMC, face aux grandes gueules.
Alors, c'est inédit dans les GG, ça faisait longtemps, on accueille un optimiste. Parce que les GG, on peut pas dire que ce soit l'émission la plus optimiste du moment, c'est l'émission
on devrait devenir, d'ailleurs,
qui dit c'est vérité. C'est l'émission on râle, mais là on accueille un optimiste et il est économiste. C'est vous dire l'intérêt d'écouter Nicolas Bouzou qui vient avec ce livre chez XO Éditions, L'éternel sursaut, sous-titré Une histoire confiante de la France. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous. Avant de connaître le sursaut, là c'est plutôt le grand déclassement que l'on est en train de vivre. Pourquoi, si on ne fait rien, un Polonais dans 5 ans sera plus riche qu'un Français ?
Parce qu'on n'a pas assez d'activité économique en France, parce que les salaires, ça tombe pas du ciel. Les salaires, c'est une résultante de l'activité économique, de la croissance. Et quand on a 1% de croissance au mieux tous les ans, on peut pas avoir des salaires qui augmentent de 3-4% par an. C'est impossible. Et en Pologne, vous prenez cet exemple, il y a de l'activité économique, il y a de la croissance. Je suis désolé, peut-être j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais parfois, dans le débat public français, on est obligé de rappeler que les salaires sont distribués par des entreprises et que les entreprises ont besoin d'avoir de l'activité pour distribuer des salaires.
Il y en a pour tendance à l'oublier.
Pardon, hein.
Ouais, c'est vrai. C'est
mais
bien
c'est factuel, la France vit un déclassement.
Oui, absolument. Alors c'est un déclassement qui est relatif. Ça veut dire que beaucoup de pays vont plus vite que nous. Et en fait, ça
donc
génère...
en fait, on stagne. Et
oui,
il passe devant.
Ça dépend des gens en fait. Donc grosso modo, on va dire qu'en termes de salaire, on stagne. Mais vous voyez, si vous prenez l'ensemble des pays développés, des pays de l'OCDE, il y a 15-20 ans, on était vraiment en haut. Maintenant, on est au milieu. Donc il y a quand même
donc
cette idée, vous voyez, de déclassement relatif. Et moi, si vous voulez, ce qui me rend ce que je trouve extrêmement problématique, c'est que vous avez plein de gens qui travaillent beaucoup en France. C'est pas vrai de dire qu'on travaille pas. Les gens travaillent pas 35 heures. Hein. 35 heures, c'est la durée à partir de laquelle, en fait, les règles changent. Mais vous avez des tas de gens dans notre pays qui travaillent 40 heures et puis à la fin du mois, ils ont pas les moyens de se payer une pizza en famille. Et pour un libéral comme moi, qui veut faire la promotion du travail, c'est pas possible.
Et pourquoi le travail ne paye plus alors?
Bah parce que collectivement on n'est pas assez performant, parce qu'on a trop de règles, parce qu'on a trop d'impôts et parce que justement, et c'est un peu l'objet de ce que j'essaie de défendre, en réalité, en France, vous avez énormément d'entrepreneurs, vous avez énormément de salariés qui travaillent bien. En fait, on a un moteur économique qui est extrêmement performant, mais il est très bridé. Il est tout petit. Donc, on a vraiment un... Et je vous le dis pas par bien-pensance, hein, franchement. Hein, mais c'est vrai de dire qu'on a des potentialités dans notre pays qui sont absolument exceptionnelles, mais voilà, qu'il faut... libérer
oui, mais
pour que le pays donne sa
Nicolas,
pleine mesure.
Nicolas, vous êtes un optimiste indécrottable, mais quand même, les faits nous montrent que si on veut changer les choses, on n'y arrive jamais. Par exemple, le budget. François Bayrou nous avait dit, essayer de faire prendre conscience aux gens qu'on dépensait trop, qu'il y avait des déficits, qu'il fallait régler le problème de la dette. Le Cornu arrive, il fait voter un budget avec plus d'impôts, plus de dépenses, et on nous dit, bah, il faudra attendre un an pour voir si ça change. Donc en fait, on n'y arrive jamais. Donc moi je veux bien votre sursaut, vous appelez vos vœux votre sursaut, oui. Mais on le voit pas venir le sursaut.
Non, je suis entièrement d'accord avec vous sur le spectacle.
Et vous croyez
absolument
que à la présidentielle, ouais, les candidats vont arriver avec un langage de vérité. Ils vont nous promettre
voter,
encore.
Hein, c'est pas, enfin moi je suis pas tout seul à voter, hein, donc c'est les Français qui choisissent leur gouvernant.
Parmi les candidats.
Non mais Olivier. Justement, ce que j'essaie de montrer dans cet ouvrage, c'est que la France, c'est ça. La France, c'est le pays qui décline plus que les autres, qui met plus de temps que les autres à redémarrer. Mais c'est le pays, croyez-moi, je fais une analyse historique depuis la France d'avant la France, depuis la Gaule, c'est le pays qui redémarre le plus vite.
Donnez-nous des exemples concrets.
Allez, 1870, Sedan, l'Empire s'effondre, on perd nos territoires les plus industrieux, les plus efficaces économiquement. Vous avez la guerre civile, la commune, vous avez tous les scandales parlementaires, Panama, etc. Vous avez le boulangisme qui arrive, vous avez un président de la République qui s'appelle Sadi Carnot qui se fait assassiner, vous avez l'affaire Dreyfus. Et à partir de la fin du 19e siècle, la France invente le cinéma. Elle va devenir leader de l'industrie automobile et elle va quasiment inventer l'aviation. Vous avez les expositions universelles, vous avez l'art nouveau et le monde entier veut venir en France. Et je pourrais multiplier les exemples. 58,
on rebondit
avec,
en fait.
58 avec le retour du... 58, la guerre en Algérie, le FMI, Général de Gaulle... Attends.
Oui.
30 secondes, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Général de Gaulle, il appelle Pinet, il lui dit on va remettre un peu d'ordre dans les finances publiques. Fait appel à l'économiste le plus libéral du pays, excellente idée, Jacques Rueff, et pour libéraliser l'économie et la France, alors que les parlementaires ont filé la République à Pétain le 10 juillet 1940, la France va connaître les 30 Glorieuses les plus brillantes de tout l'Occident.
Nicolas,
comment voulez-vous que je ne sois pas confiant quand je regarde
cette histoire? D'accord, mais le point commun, c'est qu'il faut une bonne guerre pour se relancer, parce que 58, il y a la guerre d'Algérie qui fait tomber la 4ème République, et vous parliez de la guerre de 1970, pareil. Donc en fait, il faut arriver au pire pour essayer de se relancer. C'est un peu
inquiétant. C'est une immense question que vous posez. Justement, notre rôle, à vous et moi, d'ambianceur, c'est d'essayer de faire en sorte que la prise de conscience, elle se fasse avant le drame, parce que vous m'invitez pas et j'écris pas des livres pour dire bah écoutez, on va faire n'importe quoi, tout va aller à volo, on va avoir le FMI et les choses vont aller mieux. C'est quand même pas très satisfaisant. Alors, mais regardez, je voulais juste là,
il faut qu'on soit au bout du rouleau pour réagir.
Regardez ce qui s'est passé l'année dernière. Notre-Dame et les Jeux Olympiques, on fait des lois d'exception pour dire aux gens, vous allez bosser, toutes les règles qui vous ennuient tout au long de l'année, ça s'applique pas. On trouve de l'argent privé, c'est pas de l'argent public, de l'argent privé, etc. Et on donne aux gens un projet. Et la France, elle impressionne le monde.
Malheureusement, on peut pas résumer la situation de la France depuis 10 ans à la reconstruction de Notre-Dame et aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, Notre-Dame qui n'aurait jamais dû brûler, qui a sans doute brûlé pour des règles liées au code du travail et qui a été incendie lui-même représentatif du mal français. Alors, moi, je voudrais vous féliciter très modestement pour votre ouvrage, parce que c'est formidable qu'il y ait des gens comme vous qui se mouillent avec cet optimisme. C'est forcément positif. Maintenant, dans le débat qui nous anime, je ne crois pas malheureusement à votre thèse. J'espère me tromper. Je me trompe peut-être.
Ça m'étonne pas.
Parce que connaissant ce qu'il y a sous le capot de l'économie française, je pense en quelques mots simplement qu'on est coincé, on est par notre niveau d'endettement abyssal de l'État, puisque 100 milliards, c'est le niveau de l'impôt sur le revenu, c'est quelque chose d'absolument considérable, c'est deux fois le budget de la défense, enfin, c'est l'asphyxie qui est en cours et irrémédiable, et que de surcroît, on est coincé de partout, on est encastré de partout, qui plus est que nos politiciens, à cause de quoi? Des choses énormes. L'Europe, on a plus les manettes. Comme dirait l'autre, vous disiez Pinet, le français, on n'a plus les manettes, on est bloqué. L'immigration incontrôlée avec les masses mondiales, c'est quelque chose d'endémique absolument immaîtrisable et qui nous frappe de plein fouet, la France. Les mentalités françaises des droits acquis, c'est dans la tête que ça se passe. Allez, les dictateurs continuent parce que ils n'arrivent pas à faire transmettre dans la rue, dans les guerres civiles, la révolution dans les têtes. Mais nous, c'est dans les têtes, les gens sont dans les droits acquis, ils sont complètement lobotomisé, voilà. Et puis la démagogie électorale, Olivier Truchot y a fait référence. On pourrait encore citer le pouvoir excessif des juges. Si jamais il y a quelque chose qui marche, voilà. Mon expression, c'est on est encastré, voilà. Et là, on bouge plus là.
Je voudrais avoir la réponse de Nicolas et après Zora.
Déjà sur deux points. Est-ce que l'Europe nous paralyse?
Mais non, c'est nous qui nous paralysons nous-mêmes.
Voilà, merci.
Regardez, demandez aux agriculteurs, vous vous intéressez beaucoup, je vous écoute, vous vous intéressez beaucoup aux questions agricoles. Mais le problème de l'agriculture, c'est pas l'Europe. D'ailleurs, l'Allemagne et les Pays-Bas réussissent bien mieux que nous maintenant dans le domaine agricole. C'est le fait que notre Parlement surtranspose de façon absolument délirante toutes les directives européennes. La question de la dette, je suis d'accord avec vous, bien évidemment. Mais enfin, on a 1700 milliards d'euros de dépenses publiques. Faut la réduire de 30 milliards pendant 3 ou 4 ans. Vous êtes dirigeant d'entreprise. On se met ensemble dans une pièce. Si on est un peu raisonnable et un peu adulte, on n'arrive pas à faire ça.
Oui, mais les politiques n'arrivent pas. Regardez,
mais les politiques n'arrivent pas parce qu'ils ne cherchent pas.
Voilà,
parce qu'ils ne veulent pas.
Donc, ça veut dire ces politiques qui vont pas changer. Oui. Ceux qui sont là actuellement, ils seront là dans un an pendant la présidentielle.
Emmanuel, parmi les problèmes, il a parlé de l'immigration aussi. Est-ce que c'est un problème?
Oui, l'immigration. La question de l'immigration, c'est qu'on la maîtrise pas. Mais c'est pas véritablement une question européenne. On peut parfaitement mettre en place une politique d'immigration choisie, comme l'ont fait par exemple les Canadiens, où on décide de dire, dans tel métier, on a vraiment besoin de gens qui sont qualifiés, et donc on met en place des quotas. Mais ça demande une vraie organisation et un État qui soit performant, parce que quelque chose qui à mon avis est un peu au cœur du problème et que vous n'avez pas pointé du doigt, c'est l'inefficacité endémique de l'État. Je vais dire un truc qui va vous faire plaisir, je pense. En faisant ce livre, je suis un peu devenu, je ne m'y attendais pas, bonapartiste, parce que le code civil, c'est-à-dire une immense simplification juridique 1804, et l'idée d'un État frugal, concentré sur ses missions, qui se protège vers l'avenir, je pense que si nous revenions à cet esprit bonapartiste, celui des guerres, bien évidemment. Oui, mais les Français, ils adorent leur histoire. Oui, ils sont très sensibles à ce genre de références. Donc les gens, ils comprennent, ils sont très cultivés les Français en histoire, ils comprennent parfaitement ce que je veux dire quand je parle d'État, d'esprit,
bon
de la partie, etc.
Bon courage, vous demandez à l'État obèse de réduire et de se concentrer sur ses fonctions régaliennes, je dis bon courage parce qu'il y a des intérêts quand même très nombreux pour que les choses ne bougent pas.
Ah oui, mais parce vous ne m'invitez pas pour vous raconter le tien et des trucs faciles.
Mais oui, non, mais je suis d'accord, mais vous avez sans doute le bon remède, maintenant on n'a pas trouvé le médecin.
Mais non, mais ce qui est dingue, en tout cas merci d'être là, moi j'ai pas eu le temps de lire votre livre, mais je suis aussi intéressée par cette idée. D'abord, je suis une optimiste aussi, donc ça aide.
Ça se voit.
Je suis une optimiste. Moi, je crois aux Français et je crois à leur capacité de faire des choses absolument incroyables. Et je crois surtout à leur envie en ce moment, plus que jamais, de vouloir se mobiliser pour peut-être eux être aussi une solution. Mais il y a un phénomène très intéressant que vous décrivez, qui est celui de la paralysie organisée pour empêcher la créativité et empêcher la production de richesses. C'est-à-dire que je donne un exemple, tout bête. Un jeune se lève un matin et se dit, bah tiens, dans mon coin, j'aimerais bien aller livrer des croissants aux gens parce que et du pain, parce qu'il y a beaucoup de gens âgés. Avant qu'il se lève le matin, qu'il aille à la boulangerie, qu'il achète ses croissants, qu'il prenne son vélo et qu'il se dit « je vais bosser », il a d'abord une tonne de paperasse, peut-être pas l'autorisation, peut-être machin et peut-être bidule, et il y a 1 million de freins qui vont faire que à la fin de la journée, il va se dire « bah je peux pas ». En fait, il faut libérer la créativité, le travail et l'esprit d'entreprendre.
C'est vrai ou pas, Nicolas?
Mais j'en suis absolument convaincu. C'est pour ça que je pense que le premier sujet, c'est vraiment celui de la simplification.
Mais voilà.
Mais vous avez tellement de gens, mais d'ailleurs même au sein de l'État ou des collectivités locales, des maires qui vous disent « mais je voudrais faire tel skateboard, etc. mais je peux pas parce que j'ai trop de lois ».
Donc il faut commencer.
Et ça, c'est très concret. Le problème, c'est qu'en plus, là, les partis politiques ne prépare pas du tout les programmes de la présidentielle. C'est des agences événementielles. Mais ils font rien, ils n'ont pas l'idée d'un. Au mieux, du mieux, du mieux. Moi, chez mes amis, vous avez quelqu'un qui va vous dire il faut mettre une couche de retraite par capitalisation. Alors là, on est dans le bout du monde de la précision programmatique. Donc il faut savoir comment on simplifie. Je peux dire un truc sur les cheminots?
Oui.
Parce que vous me demandiez des exemples historiques.
À côté de Bruno Poncet.
Attendez. 19e siècle, ça c'est vraiment la France. La France était le pays le plus en retard en matière de développement de chemin de fer. Les premières années, on a terminé, on était le pays le plus en avance. Parce que la France est toujours un pays, c'est le pays qui part le plus tard et c'est le pays qui arrive en tête. C'est ça ce qui va se passer.
Rien ne sert de courir à un point. Bruno.
Non, déjà moi, je vous ai déjà rencontré, on a fait déjà des débats à l'époque des réformes ferroviaires.
Ouais.
Vous étiez moins enthousiaste vis-à-vis de ce qu'on faisait, mais bon, ça c'est autre chose. Mais là, vous dites, la relance. Mais, effectivement, chaque fois que vous parlez de relance dans l'histoire de France, souvent il y a eu un conflit ou il y a eu une révolution. Or, en fait, aujourd'hui, on est dans un conflit. Mmh. Et la relance de l'industrie française est en train de se faire parce que avec l'armement. Moi, je viens d'une région, la région du centre, Bourges, où aujourd'hui, ça n'a jamais marché autant. Il y a de l'emploi parce qu'on vend des armes et parce qu'on vend les armes qui bombardent et la Russie et l'Ukraine.
Et on va en continuer à le faire.
Parce que ça nous rapporte. Je pense qu'on est content quand la guerre ne s'arrête pas. Et donc, moi, je vous entends. Mais sauf que derrière, vous ne parlez pas de réindustrialisation. Vous ne parlez pas, vous nous dites, oui, il faut créer de la richesse. Mais moi, la richesse, ce n'est pas devenir un pays de service. Mmh. On est devenu un pays de service. Moi, quand j'étais gamin, j'ai travaillé à l'usine à partir de 17 ans et demi. Bah, en traînant des usines, il y en avait partout. Aujourd'hui, il n'y a plus d'usines. Il n'y a plus donc d'ouvriers, il n'y a plus de vote ouvrier, et donc effectivement aujourd'hui on se retrouve dans une espèce de nasse de gens qui vous parlent d'économie de la journée qui n'y connaissent rien et qui n'ont jamais rien géré. Un ouvrier, quand il était payé à la fin de semaine, il savait très bien qu'il pouvait aller au bistrot le vendredi soir ou le samedi soir, il ramenait l'argent à maman parce qu'il fallait qu'il fasse manger la semaine d'après. C'était quelque chose de concret. Aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie, et moi je vous entends pas parler de réindustrialisation. Moi j'entends même pas qu'on parle des patrons voyous. Comme par exemple Michelin qui touche de l'argent pour acheter des machines, mais qui achète des machines dans ces usines à l'étranger. Alors, il y a un vrai sujet avec ça.
Bon, déjà, la France et les étrangers nous voient comme ça, c'est un pays d'entrepreneurs et d'ingénieurs. Vous n'avez pas un pays au monde qui sort autant d'ingénieurs. Donc le fait qu'on se soit désindustrialisé, vous avez tout à fait raison, est une anomalie. C'est une trahison de l'esprit français. Mais regardons les choses concrètement. Aujourd'hui, vous voulez faire une usine en France? Mais c'est incroyablement compliqué. Il faut trouver le foncier, il faut qu'il soit constructible, il faut avoir les autorisations, vous avez des recours juridiques. Le juge administratif, pardonnez-moi, on est dans les grandes gueules de vous le dire comme je le pense, mais parfois, il n'est pas obsédé non plus par l'intérêt économique, mais par d'autres considérations. Et puis j'ajoute les charges, etc. Le fait aussi qu'on a des difficultés de recrutement dans l'industrie, tous les industriels vous le disent. Et en réalité, la France, qui est structurellement un grand pays industriel, tout le Second Empire, la France, c'était justement le pays de l'industrie. Et je pourrais même remonter à, je le fais dans le livre, La France d'avant la France, les Gaulois, complètement caricaturés par Astérix, qui a fait croire qu'on était un petit pays, comme ça, obsédé par la bière, etc. La Gaule, c'était pas ça. La Gaule, c'était le pays qui était le plus exportateur de chars, d'armes, d'agroalimentaires. Donc, c'est vraiment dans notre tradition. Donc, je suis sûr que sur certains sujets, on pourrait s'entendre. Je suis mille fois d'accord avec vous sur...
Mais est-ce qu'on peut, donc, on peut réindustrialiser le pays?
Bien sûr.
Il y a un peu de main-d'œuvre qui est chère. Bien sûr. Pour réindustrialiser.
Oui, il y a une main-d'œuvre qui est chère, mais aujourd'hui, les outils technologiques, notamment les robots, permettent de faire en sorte qu'en réalité, la part de la main-d'œuvre dans le coût d'une usine est beaucoup plus faible qu'auparavant. Non, mais il faut des salariés. C'est les deux. Oui, mais c'est les deux.
Comme l'IA. L'IA va envoyer des gens au chômage. Mais on en fait quoi de ces gens?
Non, parce que je suis persuadé que pour utiliser l'IA, et puis, exactement, de toute façon, il y a plein d'autres jobs qui vont se créer. Donc, si vous voulez, la technologie, elle va considérablement nous aider. Et de la même façon que les technologies de mécanisation, le charbon au 19e siècle, ont permis le développement de l'usine.
On manque de boulangers, on manque de charcutiers, on manque de bouchers, on manque pas de sociologues. Il y a quand même un sujet aussi d'orientation, en fait.
Ou d'économistes.
Non, attendez, on va faire une tribune ensemble, parce que si vous êtes, si vous trouvez qu'il y a trop de sociologues et qu'on les entend trop, on va être amis, hein. Je suis entièrement d'accord.
Un mot, justement.
Moi, je trouve qu'il y a trop de sociologues et pas assez de gens comme moi.
Un mot, pour terminer, parce que c'est dans l'actualité, 20% des jeunes sont au chômage. Ça fait à peu près 30 ans, c'est ce que disait le MEDEF, qu'on a 20% de jeunes au chômage. Mmh. On n'y arrive pas. Le MEDEF proposait, de faire un CDI spécial jeunes, moins bien payé, moins protecteur. Mmh. Ça a été retoqué par le gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait alors pour les jeunes?
Ça, je suis contre, parce que je veux pas qu'on stigmatise une partie de la population.
D'accord, mais quelles sont les contre-propositions?
Alors, aujourd'hui, en France, on a un problème chez les jeunes majeur de formation et de qualité de la formation. On voit que la dégradation, par exemple, de notre niveau en mathématiques commence déjà à se payer économiquement avec moins d'ingénieurs, des ingénieurs qui sont de moins bon niveau, etc. Donc on a un sujet absolument majeur de formation. Et après, l'autre sujet, en fait, tout bête, mais je suis obligé de revenir à des basiques, c'est l'activité économique. C'est le fait qu'on bride trop l'activité économique et donc que dans des endroits comme Vierzon, où on pourrait réindustrialiser, où on pourrait développer davantage de commerce aussi, parce qu'il faut écouter les restaurants, les exploitations agricoles. En fait, la demande dans le domaine, elle est énorme aujourd'hui au niveau mondial, sauf qu'on se freine nous-mêmes, notamment par les surtranspositions dont je parlais tout à l'heure. Et donc, du coup, on pourrait considérablement libérer l'activité économique. Et donc ça ferait beaucoup plus de travail.
Merci Nicolas Bouzou. L'éternel sursaut, une histoire confiante de la France. Vous avez aimé le discours de Nicolas. Il suffit.
Mais on va y arriver, hein. Je venais chez vous il y a 15 ans. Si on se revoit dans 15 ans, vous verrez que j'ai eu raison.
On n'aura pas changé dans 15 ans.
Vous serez là pour nous le dire. C'est aux éditions XO. Merci Nicolas.